Marie-Charlotte, vous reprendrez bien une petite tasse de thé?
Oh oui, volontiers.
Avec un nuage de lait?
Oui, merci.
Ouh, c'est chaud. Mais, oh, c'est 17h. C'est Lilith, Martine et les autres.
Eh oui, c'est l'heure.
Martine et les autres, l'émission féministe à l'heure du thé.
Bonjour, alors vous êtes bien à l'écoute de Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 FM. Et aujourd'hui, on est assez nombreuses dans les studios avec Myriam à la technique.
Bonjour.
Tatiana.
Bonjour.
Sophie.
Bonjour.
Laura.
Bonjour.
Et moi, Elisa. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on fait une émission où on va vous parler de sexe, de genre et de sexualité. Donc c'est un peu des grands mots fourre-tout qu'on va essayer de définir et d'articuler entre eux. En partant à la base du fait que sexe, juste le mot sexe, ça a les trois sens. Ça veut dire ça désigne à la fois le sexe biologique, à la fois le sexe social, donc le genre, et le fait d'avoir une sexualité, de faire du sexe. On va essayer de voir un peu comment se différencient les trois, et surtout comment ils s'articulent entre eux. Donc, dans un premier temps, on va voir un peu comment la notion de genre, elle est apparue, notamment dans les études féministes. Et comment du coup ça a fait que ça a différencié le sexe social du sexe biologique, et revenir donc sur cette idée de sexe biologique, et surtout montrer que ça aussi c'est un construit social. Donc on va faire des allers-retours un petit peu entre sexe social et sexe biologique pour voir comment les deux sont des construits sociaux. Dans la deuxième partie, on parlera plus de comment s'articule la sexualité avec justement l'identité de genre ou le sexe biologique, et comment, pareil, il y a des allers-retours, il y a des injonctions à avoir telle sexualité selon le genre qu'on a, etc. Et parfois même que l'identité ou l'orientation sexuelle peut être une identité de genre. Et dans la troisième partie, on verra surtout que tout ça, c'est beaucoup des normes qu'on veut nous imposer, et que on n'est pas obligé en fait de se soumettre à ces normes. Et donc on va voir un petit peu aussi des alternatives pour qu'il y ait une évolution à ce propos. On commence par écouter une petite musique.
Oui, c'est parti. To rest my weary head from all the work I'd done in those dreams I had, like weeding the garden all night. So hard to weed in the dark moonlight. Almost each night between 2 and 4, she rolls out of bed and onto the floor. Sometimes I have to go in and put her back into her bed again. So maybe this coffee is a bad idea, and maybe this might not work out for me. But maybe a walk or a nap could win us all. Up just to see you sleep, just to hear the quiet, and just to have a look at everything quiet.
Et on vient d'écouter Julie Doiron avec I Woke Myself Up. À vous les filles.
Alors tout de suite, on peut commencer par définir un petit peu ce qu'on entend par le genre. Donc le genre, a priori, c'est plus ce qui est le rôle social masculin ou féminin. Et souvent, on dit qu'au départ, on a un sexe biologique, ou en tout cas, on nous assigne à une place à la naissance pour dire si c'est, on est un garçon ou une fille. Et ensuite, il y a un ensemble de rôles sociaux qui en découlent. Donc c'est ça qu'on appelle, de manière assez générale, qu'on appelle le genre. Donc est-ce qu'on a un petit peu des exemples, par exemple ?
De rôles sociaux ?
De rôles sociaux qui sont associés au masculin ou au féminin ?
Ben, par exemple, ça peut être dans l'habillement, par exemple.
Ouais, par exemple, les hommes vont plus représenter l'autorité et les femmes la douceur.
Des trucs super, quoi.
Et moi. Puis,
une intervention.
Bah, les femmes, elles ont plus les cheveux longs et les garçons, ils ont plus les cheveux courts.
Voilà, et en même temps, on peut se dire que toutes ces caractéristiques, ça a à peu près rien à voir avec le fait d'avoir des chromosomes, mettons XX ou XY. Et que ce sont des choix. Le fait d'avoir des cheveux longs, ça découle pas de quelque chose qui est inscrit dans le biologique. Mais par contre, le fait qu'il y ait plein de choses qui soient comme ça marquées, ça crée une... Enfin, on l'explique pourtant par quelque chose qui serait présent en nature. Et donc, on naturalise le sexe, alors que justement, ce sont des choix et ce sont des rôles sociaux. Et d'autant plus qu'il y avait aussi un exemple, par exemple, c'est comme l'épilation, c'est un processus qui fait que non seulement on a l'idée que les femmes vont avoir moins de pilosité, mais de toute manière c'est aussi construit parce que de toute manière les femmes vont aussi plus, dans certaines sociétés on va leur demander plutôt d'être plus épilées et du coup ça va...
Ouais, parce qu'elles doivent être jolies alors que les hommes pas forcément, quoi.
Oui, ou que c'est considéré comme joli et féminin le fait que d'être épilé, et du coup après on va le redire avec un argument en nature alors que finalement c'est quelque chose qui est extérieur et qui est construit. Et voilà, et après pour passer directement à la notion du coup de sexe biologique, ça a été une des premières avancées, ça a été déjà distinguer ce qui était sexe biologique et le sexe social, et de dire que justement ce qui était social, c'était social, donc construit, etc. Mais le fait de faire cette distinction entre les deux, c'est aussi une manière de réaffirmer que le sexe biologique, il est vraiment fondé en nature. Sauf que, en fait, le sexe lui-même, il a une histoire, et là, il y a un regard qui est porté sur le sexe et qui est différent au cours de l'histoire et qui est différent aussi peut-être en fonction des sociétés. Et donc le fait qu'il y ait une historicité du sexe, ça montre que ça aussi c'est construit la manière dont on le voit. Et il y a un des exemples, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du sexe, donc Thomas Laker, dans les années 90, et lui il montre que en fait même sur la manière de concevoir le sexe, ça a changé à peu près au XVIIIe siècle, donc dans les sociétés occidentales, que avant le XVIIIe siècle, il y avait une idée d'un continuum des sexes et que, en fait, il y avait un sexe unique et que son aboutissement et sa meilleure forme, c'était le sexe masculin. Mais que sinon, il y avait une sorte de continuum. Ce qui fait qu'aussi, d'ailleurs, les personnes intersexes pouvaient potentiellement plus trouver une place à l'intérieur de ce continuum-là, et c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que là, les médecins ont commencé à construire le sexe comme deux entités opposées qui vraiment ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a d'un côté le sexe féminin, d'un côté le sexe masculin. Et c'est complètement opposé dans une binarité et une dualité vraiment totale. Donc ça, c'est un des exemples.
Et c'est là où on perd la notion de continuum. Il n'y a pas un lien entre les deux, c'est vraiment deux choses différentes et distinctes.
Oui, ça c'est un changement qui est apparu à ce moment-là.
Mais du coup, ça, ce continuum, c'était plus dans les rapports genrés. Enfin, du coup, qu'il y avait moins les femmes portent des jupes et les garçons des pantalons.
Non, il y avait toujours le même... Il y avait des rôles sociaux de genre, enfin il y avait des rôles sociaux qui existaient, mais sur l'explication de par exemple comment ça se fait que les sexes ils ont telle ou telle forme, Et ben aujourd'hui, on a beaucoup l'idée à la complémentarité des sexes, ceci, cela, alors que à ce moment-là, il y avait plus l'idée de que le sexe des femmes, c'était un peu une version pas aboutie d'un sexe. Du coup, c'était quand même basé sur un truc aussi de sexisme et tout ça, mais avec quand même une autre présentation du regard, par exemple, médical sur les sexes. Et ben c'était une autre vision et qui montre qu'en fait, à chaque fois, les regards médicaux, ils ont un regard sur les définitions et après de comment est-ce qu'on voit des choses qui après nous semblent évidentes.
D'accord.
Bah, du coup, là, dans le... Je continue. Par rapport au... Bah, au contexte actuel. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une vision complètement bipolarisée des sexes. Et donc là, il y a une dualité, une bipolarisation absolue. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, par exemple, il va y avoir différents vécus par rapport à cette construction, puisque c'est une construction qui a vraiment deux cases bien définies. Et donc, pour les personnes qui se sentent pas dans ces cases-là, il y a plusieurs options. Donc, il y a une des options, c'est par exemple tout ce qui est plus vraiment la transsexualité et dans une idée qu'on va passer d'un rôle social à un autre rôle social. Du coup, avec vraiment l'idée que, par contre, on va devenir une vraie femme ou un vrai homme. Et donc, ça, à la fois, le fait qu'il y ait ça qui existe, ça montre bien que c'est un construit social, mais c'est quand même dans l'idée qu'on reste dans une binarité et que c'est important de rester là-dedans. Mais il y a aussi tout un mouvement qui est très important et que qu'on connaît assez bien. C'est aussi le mouvement transgenre, qui est aussi de pouvoir dire c'est possible d'être ni l'un ni l'autre dans aucune de ces catégories. Et de, au lieu de vouloir justement d'être dans une perspective d'intégration aux normes et de rentrer dans les cases et en se disant c'est ça qui est important, c'est de rentrer dans les cases, ça va être au contraire de dire mais en fait ces cases elles sont non seulement arbitraires, construites, etc. mais en plus elles sont oppressantes et nous c'est aussi un choix politique que de pas rentrer dans ces cases-là et de proposer, d'être aussi force de proposition d'autres possibilités d'être et notamment d'être ni l'un ni l'autre. Et de... c'est une perspective assez révolutionnaire parce qu'il y a la plupart de nos conceptions et tout ça sont articulées autour de cette binarité. Et donc de proposer d'autres voies que celle-ci, c'est une démarche assez forte. Est-ce que... Oui, je veux bien continuer encore.
Oui, continue.
Parce que moi, je trouve qu'il y a une phrase que j'ai aussi mise du temps à saisir. C'est par exemple, de temps en temps, on peut considérer que... Enfin, voilà, je vais revenir au début. On dit que souvent, il y a le sexe qui serait initial, c'est-à-dire le sexe biologique, qu'on verrait à la naissance, et ensuite en découlerait, du coup, les rôles sociaux. Donc la première étape, c'est de dire, en fait, les rôles sociaux, ils dépendent pas forcément de cette biologie. Mais il y a encore autre chose, c'est que cette biologie elle-même, elle est pas si stable et si définissable que ça. Donc là, comme on l'a vu, il y avait déjà les regards des médecins sur du pouvoir médical sur déjà comment est-ce qu'on considère le sexe, etc. Mais on peut reprendre un petit peu le concept de genre, justement, à quel moment est-ce qu'il a été inventé. Et en fait, au début, il n'a pas été inventé par les féministes, etc. Et donc, ce n'était pas dans une perspective, comme justement on peut connaître aujourd'hui du mouvement transgenre et dans une perspective féministe, mais ça a été inventé aussi justement par des médecins qui s'occupaient du traitement des personnes intersexes. Donc à ce moment-là, on les appelait Donc c'était pour les nouveau-nés qu'on disait hermaphrodites. Aujourd'hui, on parle plutôt de personnes intersexes. Et en fait, les médecins, ils étaient vraiment absolument préoccupés pour ces enfants intersexes de les mettre dans une des deux catégories. Et c'était pas possible de vivre en étant dans aucune de ces deux catégories. Et du coup, c'est pas que l'enfant n'avait pas de sexe, parce que bien sûr, il a un sexe, mais juste, il n'avait pas le bon sexe, c'est-à-dire, il y avait une ambiguïté qui mettait finalement les médecins mal à l'aise. Et donc, ce sont ces médecins qui, comme pour déterminer ensuite quel sexe attribuer quand il y avait une ambiguïté, ils sont servis en fait de critères qui sont sociaux. C'est-à-dire, ça va être trop dur pour un homme de vivre avec un sexe, avec un phallus qui serait trop petit, alors il vaut mieux faire une fille, par exemple. À chaque fois, ce sont des représentations sociales qui conditionnaient la manière de...
D'attribuer un sexe biologique à l'enfant.
Et en fait, c'est les médecins qui sont les mieux placés pour voir que leur système binaire y tient pas. Et en même temps, c'est eux qui rappellent, qui réaffirment toujours cette nature binaire. Du coup, en fait, ils sont dans un état où ils maintiennent une sorte d'état de crise. Ils sont les premiers à être conscients et etc.
De voir que cette binarité, elle n'est pas existante et qu'elle n'est pas naturelle. Et en même temps, c'est les premiers à tout faire pour maintenir cette binarité à tout prix, même quand les nouveau-nés, ils ne rentrent pas dedans. Et du coup, ils le font au travers de leur propre représentation de comment doit être le sexe de quelqu'un et de là attribuer ce qui est le plus facile dans leur idée pour l'enfant, quoi.
Mais du coup, c'est quand même les parents qui choisissent à la fin. On ne sait pas.
Souvent, c'est eux qui ont l'autorité, quoi. Mmh. Mais en gros, ils se plient aux décisions médicales. Mmh. En gros, forcément, l'autorité médicale, c'est difficile d'aller contre, quoi.
Mais c'est que c'est vu comme des malformations, en fait.
C'est ça.
C'est comme des défauts
qu'il faut corriger.
Qu'il faut corriger, comme quelqu'un qui naît avec un bras pas fini ou aveugle ou quoi, ou quelque chose comme ça en fait, un handicap.
Oui, c'est toujours vu comme un défaut par rapport à une norme de toute façon.
Et aussi, alors l'élément qui a fait que vraiment on commence à parler en termes de genre, c'est dans les années 50 aux États-Unis. Et là, il y a déjà plusieurs médecins qui ont commencé à dire que justement le comportement sexuel ou l'orientation vers le sexe, que ce soit un sexe mâle ou femelle, ça n'avait pas de fondement inné. Et puis, il y a eu en particulier une histoire qui avait fait beaucoup polémique. C'est dans les années 70. Il y a un médecin qui s'appelle John Money. Et il a publié donc un livre qui a fait beaucoup de polémique parce qu'il raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Bruce, qui est devenu Brenda. Parce que du coup, là, l'histoire, c'est différent. Enfin, là, c'était pas quelqu'un qui était intersexe, c'était quelqu'un qui avait été considéré comme un petit garçon.
Sans ambiguïté,
sans ambiguïté
à la base.
À la base. Et il a eu un accident, donc à 9 mois au cours d'une circoncision, qu'il a laissé sans pénis. Et là, le médecin a dit aux parents. Donc là, c'est les parents qui ont fait appel au médecin, à John Money, comme ils savaient qu'il était spécialiste un peu de la question. Et là, ils ont demandé ce qui était le mieux de faire. Et lui, il a dit, le mieux, c'est pas possible de vivre dans une société comme ça, d'être un homme sans pénis. Il vaut mieux le réassigner en fille. Et donc, comme ça, pour lui, ce qui fait un peu polémique, c'est que lui, il s'est aussi servi de cette expérience un peu comme un cobaye pour faire ses propres démonstrations. Donc nous, après, bien sûr, on peut prendre les résultats de son expérimentation, qui est que finalement c'est le social qui détermine plus que la biologie si on devient un homme ou une femme. C'est le fait de désigner quelqu'un comme fille ou comme garçon qui fait qu'ensuite on devient plus un homme ou une femme. Mais après, c'était assez scandaleux le fait que de pas laisser la possibilité des personnes de vivre telles qu'elles sont et potentiellement de choisir à un moment donné dans leur vie si elles veulent avoir une opération ou pas.
C'est fini sur le sujet. On va mettre une petite musique, une petite pause musicale. Oui. We'll be right back.
Sender, Mrs. Sender. We're pleased to inform you that your application's been accepted starting from the time you get this letter. Your life will be one never-ending hope. You're feeling better. You get your choice of anesthetic. We need to chop your tick-tock, 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 tick-tock. It might not be what you expected. There is no money back once you've been ripped off, ripped off, ripped off. Today is a very special day. The boys are murdered for it. But what will the neighbors say? It leaves you feeling pretty hollow. It might be nice to look at. Don't forget you're stuck with it tomorrow and tomorrow and tomorrow. You're big enough to stop pretending. You'll start to really show it in a week or so. So don't go saying it's just come to your attention. You get more than you're asking for without the right protection. Today is a very special day. Oh, and how you'd love to have a little thing with which to play. But love won't get you very far. Hear the little pitter, 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 pitter of this little sheet of engineering. Of course I love you, and of course it's what's inside that matters. But I think the whole charade is ending. It seems to me to be the only way to keep from getting caught in a long line of regretting. The doctor said it once you get it, enter it, you'll keep on. But while we happen to be here, why don't you whisper all those sweet thoughts in my stiff upper lip and all this sorrow.
Donc, et vous êtes toujours à l'écoute de Lilith Martin et les autres, puis on va vous dire ce que vous venez d'écouter.
Eh oui, et qu'est-ce que vous venez d'écouter? The Dresden Dolls avec Sex Changes.
Alors, du coup, on enchaîne sur la deuxième partie où là, on va parler un peu plus de comment le genre s'articule avec l'identité sexuelle ou la sexualité qu'on a.
Oui, parce qu'on peut dire qu'en général, quand on est une femme, on dit qu'on doit coucher avec des hommes. ça veut dire qu'on est dans un système
hétéronormé.
Elle nous fait des phrases à trous, c'est sympa. Et voilà que souvent, en fonction du...
On peut genre.
Dire du genre. On découle une...
sexualité,
norme de sexualité. Et voilà, d'où par exemple l'aspect de temps en temps scandaleux quand il y a des personnes qui sont transsexuelles et que par exemple quelqu'un veut devenir une femme et devenir lesbienne. Ça par exemple les psys ils comprennent mal, enfin les psys. On est en présence de psychologues dans le studio.
Certains comprennent très bien et d'autres mal.
En tout cas au niveau des institutions. qui permettent d'avoir ensuite accès
à des changements d'état civil, notamment.
Voilà. Et ben, c'est quelque chose qui passe pas spécialement bien, parce qu'en général, on se dit, bah oui, c'est bien à la limite de faire une transition, parce que comme ça, ça va être un retour justement à une forme de norme qui est la norme hétérosexuelle. Donc voilà, mais en fait, il faut savoir que non.
C'est pas obligé.
C'est pas obligé.
Mais du coup, là, c'est un exemple où on voit bien que c'est vraiment imbriqué, en fait, l'orientation sexuelle et le sexe biologique et le genre. Tout est lié et tout découle l'un de l'autre selon dans quelle situation on se trouve.
Que c'est un peu censé faire comme un... Oui, c'est ça, un découlement logique, mais qui, en fait, peut être déconstruit à l'inverse. Un peu comme on disait tout à l'heure, on imagine qu'il y a un sexe initial qui va déterminer ensuite le genre, qui va ensuite déterminer la sexualité, alors qu'en fait, finalement, on voit que le sexe lui-même, des fois, il est défini selon des caractéristiques sociaux, que du coup, en plus, le genre découle pas du forcément de... Enfin, a rien à voir avec une définition biologique... etc. et que du coup la sexualité non plus. Et même on pourrait même voir à l'inverse que le fait qu'il y a certaines pratiques ou identités sexuelles qui peuvent au contraire amener à une diversité dans les identités de genre. Et que voilà, et que du coup on peut, c'est l'occasion un petit peu de parler d'une phrase qui est assez connue de Monique Wittig, qui à un moment donné affirme que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui fait souvent, qui pose souvent question. Et dans quel contexte un peu est-ce qu'elle affirme ça? Donc c'est pas pour refuser aux lesbiennes une appartenance à la catégorie humaine-femme, mais c'était dans un contexte politique et de réflexion un peu spécifique, qui est que à ce moment-là où elle l'a affirmé, c'est concevoir un peu homme et femme justement dans un contexte de binarité où femme ça se met en complémentarité et en face de homme, et même dans les définitions, par exemple dans le dictionnaire on va trouver la définition de femme à la fois être humain, femelle, mais aussi c'est la femme de l'épouse, et du coup femme ça s'imbrique assez fort en opposition et en complémentarité soi-disant avec homme, sachant qu'en plus il y a une hiérarchie à l'intérieur de ces notions, mais que du coup l'affirmation de Monique Wittig, c'est une manière d'affirmer que les lesbiennes, c'est au sens même politique, et ben c'est une manière de sortir de ce système là
de sortir du système hétéropatriarcal,
c'est ça,
finalement. Oui, et du coup là on voit que ça devient c'est beaucoup plus que juste une identité sexuelle qui se rapporte juste à la sexualité, ça devient une identité même de genre, et du coup ça me fait penser là il y a deux jours, il y avait une copine qui me racontait qu'elle était dans la rue, et puis il y a un mec qui vient la voir et qui lui demande mais t'es une fille ou un garçon? Puis elle a l'habitude de répondre mais en fait on s'en fiche ou ça te regarde pas, enfin bref, du coup il lui pose plusieurs fois la question. Et puis à la fin, il fait. Et puis on sentait là que ça lui posait un problème de pas pouvoir la mettre dans une case. Et puis à la fin, là, il a l'air hyper soulagé. Il lui dit ah mais t'es lesbienne en fait. Ah c'est ça. Et du coup là, lesbienne, c'est vraiment une identité de genre quoi. C'est elle, c'est ni une fille ni un garçon. C'est une lesbienne. Donc là, on voit que l'identité sexuelle, la sexualité, c'est plus que juste la sexualité. Ça devient une identité de genre, un genre, enfin un sexe social.
Qui à part, elle sort un peu du monde de la bonne meuf, potentiellement qui pourrait draguer, ou du mec. Avec lequel il sera en compétition, ça fait une sorte de statut un peu d'entre deux.
Voilà, et du coup ça fait que ça fait quand même une nouvelle case, parce que de toute façon on voit bien que cette personne elle est pas non plus une exception quoi. Tout le monde, enfin en général tout le monde a besoin de mettre, enfin besoin. Je dis pas que c'est bien, mais c'est ce qu'on ressent tout le temps là, que les gens ont besoin de nous mettre dans des cases pour comprendre, pour se rassurer. Et du coup, lui, il avait vraiment besoin de la mettre dans une case. Et du coup, il a trouvé cette case lesbienne et ça, tout allait mieux dans sa vie, quoi. Donc voilà, je trouvais que cette histoire, elle illustrait bien cette identité de genre à partir d'une identité sexuelle, en fait. Là-dessus, est-ce qu'on a des trucs à rajouter ou on lance encore une petite pause musicale?
Oh, moi je suis prête.
Eh ben, c'est parti.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas and all, so lackaday. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
D'écouter Billie Holiday avec But Not For Me.
Et on reprend la thématique sexe, genre, sexualité, comment tout ça s'articule. Et notamment, ce dont on parlait juste avant la chanson, c'était aussi du sort de besoin de... Cette... J'ai l'impression qu'on me fait des signes.
En fait, non.
De ce... Comment des fois des personnes sont toutes perturbées quand elles n'arrivent pas à mettre d'autres dans des catégories qui préétablies. Et donc, on peut dire que ça crée une forme, toutes ces normes. Donc, les normes, c'est à la fois dire comment est-ce qu'il faut faire vraiment avec un... avec une volonté prescriptive, comme on dit, que vraiment c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais de faire et qu'on ne peut pas faire autrement.
Et que ça, c'est des autorités qui nous les font. Notamment, on a vu tout à l'heure la place des médecins là-dedans, qui sont une autorité. Il y a aussi le fait de devoir absolument avoir un état civil. Donc sur sa carte d'identité, d'être forcément catégorisé comme homme ou femme. Bref, tout ça, c'est des normes qui nous sont imposées. Et donc ça, c'est plus par les institutions, mais on a tout un tas de normes qui nous sont imposées de fait par les gens qui nous entourent, y compris par la société dans sa totalité.
Ouais, c'est entièrement présent dans énormément de la vie sociale. Et à la fois, ça peut être aussi une forme de plaisir lié au... pas aux normes, mais je veux dire au genre et aux les différentes manières qui existent, par exemple, qu'on peut avoir vraiment du plaisir à avoir adopté certaines...
À jouer avec les codes du genre, en fait.
Exactement, mais et en même temps, ça peut être aussi une forme... il peut y avoir une forme d'anxiété liée à ces... à tous ces enjeux. Et donc là, c'est un peu ce que... Enfin, je vais reprendre un petit peu ce que disait donc Judith Butler, donc un peu la référence sur les théories du genre, parce qu'elle a publié notamment Gender Trouble, donc trouble dans le genre, en 90 aux États-Unis, et du coup c'est paru vraiment beaucoup plus tard, ou 2000 aux États-Unis et 2010 en France. Bref, il y a quelque chose de 10 ans d'écart entre la parution aux États-Unis et ensuite en France. Mais en tout cas, il y a un documentaire qui est vraiment intéressant sur elle, qui est passé sur Arte et qu'on peut trouver en streaming sur Internet. Et elle parle notamment de ça, de l'aspect anxiogène que ça représente, que ces catégories. Et aussi, elle pose la question encore par rapport à la norme, en disant, mais comment ça se fait aussi que ça nous dérange autant qu'il y ait ces normes-là qui existent? Et elle dit, c'est qu'il y a vraiment que la norme, elle s'exerce d'une manière vraiment coercitive, c'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment de la répression quand on n'est pas dans cette norme. Et elle reprend l'exemple d'une anecdote donc assez tragique qui s'est produite dans le Maine, donc dans la région le Maine, il y a quelques années, où elle dit qu'il y a un garçon donc qui vivait dans une petite ville, qu'il habitait depuis toujours, et il avait une démarche un petit peu chaloupée. Donc là, on peut pas voir parce qu'on a la radio, mais on imagine une démarche chaloupée. Et il balançait les hanches d'une manière un peu féminine. Et donc vers l'âge de 14-16 ans, ce déhanchement, il est devenu un peu plus prononcé. Et le côté féminin, il est devenu plus visible. Et à ce moment-là, il y a des garçons de la ville qui se sont mis à le chahuter. Et puis un jour, il y a deux ou trois garçons qui l'ont accosté, qui l'ont battu et finalement qui l'ont jeté du haut d'un pont et il en est mort. Donc elle, les questions qu'elle soulève suite à ça, c'est se demander pourquoi est-ce que quelqu'un devrait mourir à cause de sa démarche. Et que cette démarche, elle perturbe tellement les autres garçons qui ressentent le besoin de nier cette personne et d'en effacer jusqu'à la trace. Et que c'est ça, que ce déhanchement, il doit cesser quoi qu'il arrive. Et ils se sentent obligés d'éradiquer jusqu'à la possibilité que le garçon, il se promène à nouveau de cette manière-là.
Oui, du coup, pourquoi on parle d'anecdotes un peu tragiques comme ça? C'est pour rappeler qu'en fait ces normes, c'est pas juste une façon d'analyser le monde qu'on a ou quoi que ce soit, c'est que ça a un véritable impact au quotidien pour les personnes qui sont pas dominantes dans ce système-là ou qui correspondent pas aux normes de genre et à toutes ces normes qu'on essaye d'assigner, et que ben c'est pas juste anodin et c'est pas juste des choses en l'air, c'est que ben il y a des gens qui en meurent tous les jours en fait, qui subissent des agressions parce qu'il y a des personnes qui veulent faire respecter ces normes et qui se sentent plus légitimes que d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment pour dénoncer ça que c'est important d'en parler comme aujourd'hui à la radio,
et que ces normes, elles existent pas de fait, mais parce qu'il y a vraiment une répression qui est forte. Parce que c'est vraiment, là dans cet exemple, il faut respecter les normes là de la masculinité, sinon tu dois mourir. Enfin, c'est un message qui est quand même...
Ça me fait penser à un film qui s'appelle Ma vie en rose, où c'est un petit garçon qui adore se déguiser en fille et tout ça. Et après, en fait, il arrive pas à arrêter de se déguiser en princesse ou quoi. Et après, pendant tout le film, c'est raconté. Enfin, c'est hyper émouvant et c'est hyper trash. Et du coup, enfin, en fait, juste ce fait-là qu'il aime se déguiser et qu'il aime les trucs féminins, ça fait que après, il exclut son école. Ça fait, enfin, il y a plein de conséquences tellement ça renvoie aux parents, à l'entourage vachement de violence qu'il soit pas dans sa case alors que c'est un enfant. Et que voilà quoi, il peut pas faire ce qu'il veut, il faut pas qu'il choisisse de faire ce qu'il veut quoi.
Et que les personnes souvent au lieu de s'interroger sur leur angoisse, de comment ça se fait que ça les angoisse à ce point, ces différentes manières d'être et tout ça, et ben ça va être justement de remettre les personnes à leur place plutôt que réfléchir d'où ça vient aussi ce
pourquoi moi ça me dérange.
Pourquoi moi ça me dérange en fait.
Et du coup, plutôt d'éviter d'être dérangé en faisant violence aux autres. Mmh. Et du coup, en fait, alors pour continuer là-dessus, mais sur des touches un peu plus d'espoir, sinon on est vite plombé, on voulait vous parler d'une initiative en Suède, parce que là-bas, il y a beaucoup de réflexions, notamment au niveau institutionnel, sur toutes ces normes de genre, sur le sexisme, etc. Et en fait, à Stockholm, depuis un an, il y a une école qui a ouvert, qui s'appelle Egalia. Et donc, pour l'instant, cette école, elle regroupe 33 enfants qui ont de 1 à 6 ans. Donc, c'est une école maternelle. Et le but de cette école, c'est d'ouvrir un petit peu ces normes, de les casser. Donc, avec l'idée de ne pas imposer aux enfants des comportements par rapport au fait que ça soit des filles ou des garçons, et aussi de faire bien attention à pas imposer trop l'idée que l'hétérosexualité c'est la norme, pareil. Donc par exemple, une des personnes qui travaille là-bas, qui est éducatrice, elle dit: nous voulons donc, en parlant des enfants, nous voulons leur montrer tout ce que la vie peut avoir à offrir, pas uniquement la moitié. Donc, c'est dans cette idée-là que les enfants sont encouragés à jouer avec des jouets qui sont censés plus plaire aux filles ou plus plaire aux garçons. Enfin, bref. Et ce qui est intéressant aussi dans cette initiative, c'est que c'est vraiment un travail qui est fait par les encadrants et les encadrantes, eux et elles-mêmes, puisque ça part beaucoup d'un travail sur leur langage. Donc dans les articles que j'ai trouvés, on nous explique que donc les enseignants ne disent ni elle ni lui, ils utilisent le pronom neutre pour parler aux enfants et pour que les enfants se parlent entre eux, et on dit pas fille ou garçon, mais on dit ami. Ça c'est plus sur la question de l'identité de genre. Donc on essaye de faire que ces identités existent le moins possible pour pas imposer aux enfants des comportements. Par ailleurs, plus dans les histoires qu'on raconte ou dans les exemples qu'on prend, il y a un gros travail qui est fait pour surtout pas mettre en avant des stéréotypes hétérosexuels, donc vraiment pour imposer le moins possible de normes de sexualité et de genre à ces enfants. Et là-dedans, les enseignants sont suivis. Je ne sais pas si c'est au quotidien, mais en tout cas, ils ont une formation continue pour essayer de travailler sur eux-mêmes et repérer sans arrêt, eux, comment ils ont intégré ces normes et comment ils les transmettent au quotidien, même inconsciemment, tout ça. Donc, c'est un gros travail et pour l'instant, c'est juste une école qui existe comme ça. Il y a une forte liste d'attente pour mettre ces enfants là-bas. Et par contre, elle est très critiquée. J'ai trouvé un article là-dessus dans le Courrier International, qui est pas forcément connu pour être un journal réac, et pourtant ils critiquent et ils ont un ton quand même en disant que ça va trop loin. Pour montrer qu'on n'est pas au bout des combats pour abolir les normes. Et il critique notamment aussi des parents donc qui vont comme ils disent jusqu'à gommer toute identité sexuelle, c'est-à-dire que ben en 2009 il y avait déjà eu cette histoire qui était sortie dans les médias d'un couple qui avait maintenu son enfant dans l'ignorance de son identité sexuelle, donc avec cette idée de pas imposer à l'enfant d'avoir une identité de genre, ne pas lui imposer, et surtout dans la petite enfance, là où il y a beaucoup de, enfin où l'identité se forge très fort, et donc voilà, ils se sont fait énormément critiquer. Et pareil au Canada, il y a l'exemple d'un autre enfant, enfin de la même manière, les parents voulaient pas dire ni à l'enfant ni aux personnes qui entouraient l'enfant de quel sexe était l'enfant, pour éviter ben d'imposer à l'enfant un sexe, et en plus que l'entourage se comporte différemment par rapport à cet enfant en sachant qu'il était une fille ou un garçon.
Sachant que c'est vrai que au niveau de ces des questions de genre et tout ça, c'est dès la naissance, il y a eu des expériences qui sont faites, par exemple un même bébé, exactement le même, mais soit on va dire à l'entourage que c'est une fille et on va dire ah mais qu'est-ce qu'elle est jolie, tout ça, si on prend le même bébé et qu'on dit que c'est un garçon, on va dire ah mais qu'est-ce qu'il a l'air courageux et que les réactions en fait sont dès la naissance vraiment différenciées.
Ou sur l'interprétation, on montre une photo d'un bébé qui pleure et selon si c'est une fille ou un garçon, les gens vont interpréter vraiment différemment le pourquoi il pleure. Alors si c'est une fille, c'est parce qu'elle a peur. Si c'est un garçon, c'est parce qu'il est en colère. Donc on voit que directement, en fait, c'est nous-mêmes qui imposons des normes aux enfants dès tout petits.
Oui, puis il y a aussi le truc, même la manière de tenir l'enfant dans les bras, c'est pas la même non plus avec un garçon et une fille, mais ça sans que personne s'en rende compte en fait. Quoi.
Oui, c'est tout ce qu'on a intégré. Et du coup, voilà, moi je trouvais ça intéressant de parler de cette initiative dans cette école parce que c'est des gens qui font vraiment un travail sur eux-mêmes pour essayer de transmettre le moins possible de toutes ces normes aux enfants. Alors, je pense qu'on a clos à peu près le sujet sur ce dossier sexe, genre et sexualité. Alors, on espère que peut-être c'est un peu plus clair et qu'on a pu articuler des choses. Et on va faire une petite pause musicale avant de passer à une autre partie de l'émission.
You don't lie.
Alors, vous êtes toujours sur l'émission Martine, Lilith et les autres. Et maintenant, je voulais vous lire un poème. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Bien sûr. Non, mais parce qu'en fait, il y a un atelier d'écriture aux prisonniers et prisonnières un mercredi sur deux à la Lutine, qui est 91 rue Montesquieu. Donc, vous êtes bienvenus si ça vous dit de, voilà, d'écrire des lettres et d'en recevoir pour faire un peu lien entre le dedans et le dehors dans les prisons.
À quelle heure?
19h, voilà. Et donc c'est un mercredi sur deux, donc c'est annoncé sur Rébellion, sauf aujourd'hui où Rébellion a explosé. Mais bon, on espère que ça ne va pas durer. Et donc voilà, donc il y a une femme qui est en prison et qui s'appelle Milica Petrovic et qui écrit plein de poèmes. Donc elle voulait un peu qu'on lise ses poèmes. Alors il y en a un qui s'appelle « Ne me demande pas ». Ne me demande pas la couleur de leurs yeux, mon amour. Ici, il n'y a pas de couleur. Il y a des regards, rien que des regards. Regard couleur tristesse, regard couleur chagrin, regard couleur espoir. Pardon. Ne me demande pas de quel côté se lève et se couche le soleil, mon amour. Les murs de ma prison sont très hauts. Je n'arrive pas à le voir. Ici, levé et couché du soleil, je le marque avec une croix sur le calendrier. La journée est terminée. Une journée de plus, une journée de moins, quelle importance. Ne me demande pas si je fais des projets d'avenir, mon amour. Pour moi, le lendemain est incertain. Combien d'entre elles vont tenir le coup? Combien d'entre elles vont sombrer dans la folie? Combien d'entre elles vont avoir la force morale pour tenir? Ne me demande pas leur odeur, mon amour. Ici, il n'y a pas d'odeur, pas d'arbres en fleurs, pas de saison. Ici, les saisons, mon amour, marchent au rythme des pas, au rythme des clés. Chaque pas qui s'approche, chaque clé qui tourne, c'est l'espoir de liberté. Et demain, la vie va recommencer. De Militsa. maintenant un deuxième poème de Milica Petrovic, donc qu'elle a écrit à la prison de Korba. Ça s'appelle « Je rêve d'une maison ». Je rêve d'une maison blanche, aux volets bleus, couleur du ciel.
Je rêve d'une maison blanche, entourée d'un jardin, plein de fleurs, couleur arc-en-ciel, avec des cris de joie d'enfant.
Je rêve d'une maison blanche, perchée sur la colline, par la fenêtre ouverte, je regarde la mer.
J'écoute les bruits des vagues qui viennent s'écraser sur les rochers et me bercent le soir pour que je m'endorme. Je rêve d'une maison blanche aux volets bleus et d'un jardin plein de fleurs où les oiseaux viennent se poser et se reposer sur la rampe de mon préau.
Je rêve d'une maison blanche où je raconte mes joies, mes peines et mes secrets à une mouette, car je sais qu'elle est mouette et que mes secrets, elle ne peut les répéter.
Derrière les barreaux et les murs de ma prison, dans ma cellule, je rêve de la maison blanche aux volets bleus. Je rêve les yeux ouverts, j'ai peur de m'endormir et que la nuit, l'aube me vole mon rêve, qu'au petit matin, je les oublie.
Je rêve les yeux ouverts, je rêve de toi, de nous, tu es privé de ma liberté. Il ne me reste que rêve et souvenir du passé.
Je vous fais grâce de mon corps, Madame la Justice, c'est tout ce que vous possédez de moi.
Mon esprit, mes pensées et mon âme sont restés côté liberté. Ni vous, ni la nuit, ni l'aube ne me voleront plus mes rêves.
Les yeux ouverts, je rêve de la maison blanche aux volets bleus, du jardin rempli d'enfants qui courent comme moi vers la liberté. Milica Petrovic.
Merci.
Eh ben merci pour le poème et puis merci et puis un grand soutien à toutes celles qui sont emprisonnées en ce moment. À Korba et ailleurs.
Oui, et on voulait vous rappeler que nous avons des blogs pour Lilith Martine et les autres, que vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Rageuse, qui est un site qui rassemble plein de radios féministes dans le monde entier, non, enfin dans la
francophone.
Francophone. Et aussi, on a un blog sur le site de Radio Canu, où vous pouvez retrouver donc Lilith Martine et les autres.